Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, cette semaine dans Matière à penser, c'était un peu reconstitution de ligue dissoute. Nous nous sommes mis à 5, les 5 producteurs de l'émission, face au présent. Et moi, je suis le dernier de la bande. Et donc, après la nuit des idées, c'était hier, notre souci, au fond, pour que les idées ne se confondent pas dans la nuit, où c'est bien connu, tous les chats sont gris, eh bien, c'est de se mettre face au présent, mais face au présent, on n'y voit rien, et surtout quand il s'agit d'histoire. Sommes-nous condamnés à demeurer face au présent par les écrans du monde? Est-ce qu'on voit le monde uniquement par ces écrans? Ça, c'est la question que pose Fanny Taillandier dans un très beau livre qui m'a impressionné, que je trouve à la fois audacieux, puissant, exact. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de convier son auteur à ce micro. Bonsoir Fanny Taillandier.
Bonsoir Patrick Boucheron.
Ça parle du 11 septembre. Et vous étiez où le 11 septembre 2001 ?
J'étais dans ma banlieue en sortant de mon collège et j'allais à mon entraînement de volleyball et j'ai vu ces images sur une télé qui était en langue étrangère en plus. Donc je connaissais pas New York, j'ai vu des images qui étaient privées de tout référent.
Vous dites aussi que vous ne connaissiez pas non plus le World Trade Center.
Oui, non, j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai vraiment cru que c'était une fiction. Et puis ensuite, j'ai été jouer au volleyball parce que c'est ça que j'avais à faire. Et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'il se passait quelque chose d'important. C'est quand j'ai vu les adultes, en fait, réagir que j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait. Et puis après, j'ai mis vraiment des années à me rendre compte que ces images continuaient à être présentes en moi. Et que j'y revenais toujours d'une façon ou d'une autre. Qu'elles avaient balisé quelque chose, mais qu'elles avaient balisé quelque chose que je comprenais pas et que je connaissais pas et qui m'a interpellée parce que je le comprenais pas. Mais en fait, je l'ai retrouvé au croisement de tout ce que j'ai pu étudier par la suite, de ce que j'ai pu comprendre de la politique de mon pays, mais aussi du monde autour de moi. J'ai fait un petit peu d'histoire du Proche et du Moyen-Orient à l'université et revenait les questions via les questions de colonisation, via les questions de religion, revenait cet attentat à ma mémoire. Et à un moment donné, j'ai eu envie de faire quelque chose de toutes ces pistes qu'il y avait autour de moi, qui se présentaient toujours comme des pistes et des questions, qui me poussaient à lire, à me documenter, et puis qui finalement formaient une sorte de masse assez chaotique que j'ai eu envie de mettre en ordre dans un roman.
De mettre en ordre parce que vous êtes écrivain, Fanny Taillandier, vous êtes aussi critique littéraire. D'ailleurs, c'est pas votre premier roman, c'est le troisième, on parlera des autres après. Vous écrivez des romans critiques, on a pu dire, c'est-à-dire en tout cas des romans qui mettent en ordre le monde, un monde désordonné, un monde qui nous sidère. Et par exemple, tiens, dans ce livre qui est paru l'année dernière, en 2018, dans la collection Fiction et Compagnie du Seuil, il y a une bibliographie, il y a une documentation. Donc, ça veut dire que c'est une enquête en même temps.
Oui, c'est ça. En fait, mettre en ordre, ça ne veut pas dire pour moi donner un ordre à un réel qui en serait privé. Je pense que le réel a des milliers d'ordres à la fois, en fait. Et que notre entendement est en général un peu trop faible pour les saisir tous. Et ce qui m'intéresse, moi, dans la littérature, c'est que contrairement à tous les autres discours qui peuvent s'attacher à décrire le monde et à lui donner sens, elle permet de justement soulever ce sens, le maintenir en suspens et rester à l'endroit où ça pose question. Et en fait, faire surgir des questions, notamment en confrontant les différents discours qui sont donnés sur les choses. Et dans le cas du 11 septembre, c'est extrêmement frappant parce que c'est un événement qui immédiatement, parce qu'il a été immédiatement perçu et vu dans le monde entier, a suscité des discours et des récits de ses causes et de ses conséquences totalement opposés de part et d'autre du monde. Selon les continents, selon les cultures, selon les histoires politiques plus ou moins proches et présentes des pays où il avait lieu, où il était vu, en tout cas, il suscitait des récits complètement contradictoires. Et au-delà de ça, une fois qu'on remonte un petit peu dans la généalogie de ce qui s'est joué à ce moment-là, entre d'un côté une politique américaine extérieure très impérialiste au cours du XXe siècle, mais qui en fait a du mal à suivre le tournant qui est la fin de la guerre froide, et de l'autre côté des espaces qui de colonies sont passés par différents stades de domination ou d'émancipation et différents stades de conflit, et notamment avec les États-Unis, se crée comme ça une espèce d'effervescence de liens de causalité qui n'arrive pas à réduire cet événement à une simple conséquence de quelque chose. Et ça, je trouvais ça fascinant.
Et de toute façon, vous ne voulez pas faire la leçon avec la littérature. Elle est là pour, au fond, désigner ce moment de suspens, dites-vous, de sidération, oui. A-t-on dit. Et ça, c'est peut-être une question qu'on aura à reprendre ensemble, Fanny Taillandier. Et en tout cas, de poser un diagnostic sur le présent. C'est oui. En cela, effectivement, qu'elle peut être dite critique, cette littérature.
Oui, bah vous savez, mon maître à penser, moi, en littérature, le premier maître à penser que j'ai eu, c'est Flaubert. Et pourquoi il me paraît vraiment important, c'est parce que Flaubert ne donne jamais de réponse. Là, je relisais l'éducation sentimentale récemment, il y a aucune façon de savoir ce que Flaubert pensait. Il avait évidemment des a priori propres à son temps, mais on peut pas dire Flaubert était pour les journées de 48 ou pour la bourgeoisie. Ou...
Son point de vue est suspendu.
La littérature est une question. C'est jamais une réponse, c'est toujours une question. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui me paraît, ce qui en fait l'art que j'aime le plus, quoi. C'est que ça permet comme ça de susciter l'interrogation. Et alors, ensuite, chacun donne la réponse qu'il veut.
Oui, on va en parler. Et de fait, il y a aussi plusieurs personnages, il y a plusieurs voix, et ça aussi, de toute façon, ça rend impossible toute réduction à un récit univoque. Il y a ces lectures, on en parlera, des lectures concrètes, vous avez été voir ce qui est disponible, notamment les rapports de la CIA, des Américains, sur Mohamed Atta, qui est un des personnages. Il y a au fond un personnage réel, c'est lui, Mohamed Atta, et puis il y a deux personnages de fiction, une sœur et son frère, alors que le père est en train de mourir. Et puis il y a aussi autre chose, il y a aussi toute cette littérature critique. On parlait de sidération, on parle de simulacre, donc évidemment il y a des fantômes comme ça, Baudrillard. J'ai l'impression que Baudrillard, Deleuze, c'est comme si vous aviez voulu leur donner raison et en même temps montrer que même dans l'irreprésentable, de l'art, de la description littéraire, de la littérature tout simplement, était possible malgré tout, ce sont des images malgré tout.
Oui, alors là, vous me posez une question très vaste, Patrick Boucheron, mais je pense que, effectivement, je suis contente que vous le disiez. Moi, ce qui m'importait, c'était qu'on ne puisse pas se dire ce roman veut dire ça sur le 11 septembre. Et avec tout toute l'affection que je peux avoir et voir tout l'amour que je peux porter à Baudrillard ou à Deleuze pour leur capacité à saisir le temps, notre temps contemporain, il y a quelque chose d'extrêmement affirmatif chez eux. Et moi, je me suis dit, en lisant notamment le texte que Baudrillard avait fait sur la violence qui s'appelait, dont j'ai oublié le titre là tout de suite, qui était sorti vraiment 3 semaines à peine après le 11 septembre dans Le Monde, un texte assez long, qui était brillant. Enfin, la démonstration était brillante sur ce qui se passait, ce qui se jouait en termes symboliques, ce qui se jouait en termes d'image, de représentation dans notre imaginaire à tous, dans la grammaire narrative des États-Unis, etc. Et ben, en même temps, je me disais, mais si j'avais été à New York quand je lisais ce texte, si j'avais été à New York et que ça avait été ma ville qui avait été frappée et que j'avais vu moi les tours s'écrouler et que j'avais perdu 2000 de mes concitoyens en l'espace de quelques heures, j'aurais eu envie de lui coller une paire de baffes à Baudrillard parce qu'il y a quelque chose de trop assuré et de trop affirmé face à quelque chose qui quand même dépasse l'entendement, à savoir que il y a des êtres humains, des individus dont Mohamed Atta, donc une quinzaine d'individus qui ont décidé au nom de la religion et de Dieu, qui est quand même une très belle chose au moins, ou une très belle invention, enfin une très belle existence selon les convictions de chacun, ils ont décidé de détruire autrui et de se détruire en même temps. Et ça, ce mystère-là, il reste irréductible. Et quelque part, il y a l'histoire du 11 septembre, il y a ce qu'elle veut dire encore aujourd'hui dans notre histoire politique et culturelle, mais il y a aussi cette question-là qui était pour moi...
Ce mystère, qui est resté un mystère pascalien d'ailleurs, puisque vous prenez très au sérieux la question de Dieu, au
Et oui, bah c'est un roman qui
termine,
est en train de
ça se termine comme ça. Dieu est grand, ouais. C'est-à-dire que oui, voilà, il se livre à quelque chose de plus grand que lui, et ça c'est le mystère. Ça c'est le mystère.
Le mystère, c'est à la fois celui de la vie et de la création que Dieu représente, mais c'est aussi que au nom de Dieu puisse se dévoyer ce mystère de vie et de création au point d'arriver à la destruction. Et ça, ça reste. Mais bon, je crois que c'est de ça que débattent les penseurs, philosophes et théologiens depuis des siècles quand ils parlent de libre arbitre, en fait. Et que ça reste très mystérieux. Ce qui se joue au cœur de l'homme est très mystérieux. Et moi, ça me fascine.
Et voilà pourquoi, d'ailleurs, le livre comporte deux exergues, une sourate du Coran, qui est la sourate des factions, et puis une citation de Ballard. Tôt ou tard, tout devient télévision.
Oui, c'était pour alléger un petit peu le Coran, Ballard, ça fait deux versions des faits.
Mais présentez-nous un peu vos deux personnages de fiction, Lucie et William, parce que la question Fanny Talandier, c'est aussi la question celle qui nous rassemble face au présent. L'un et l'autre, d'une certaine manière, leur métier, c'est de lire dans les événements, et tout était lisible, mais ils ne l'ont pas lu.
Oui, c'est vrai. Alors c'est drôle parce que je m'étais jamais dit ça avec ce verbe lire. Et c'est vrai que c'est des lecteurs du présent. Alors William, il est le directeur de la police de l'aéroport de Boston, d'où partent les avions qui vont ensuite aller percuter les deux tours. Et sa sœur Lucie, hasard bien fait du monde romanesque, travaille dans la tour sud. Donc elle se retrouve directement aux prises avec le crash, puisqu'elle se trouve dans le World Trade Center au moment où le crash a lieu. Et en fait, l'un et l'autre, ce qui m'importait encore une fois, c'était de pas réduire ce qui se jouait en Amérique, enfin aux États-Unis, pour les Américains. Et ils sont l'un et l'autre les contradictions vivantes de cette civilisation-là, avec laquelle on partage beaucoup. Hein. Je crois que faut pas un exotisme radical. Faut pas non plus dire qu'on est que c'est pareil. Moi, en tant que Française, j'ai écrit ce livre en tant que Française. Je sais pas comment il serait reçu par des Américains. Mais en tout cas, voilà, lui, il est à la fois policier, vétéran de l'Air Force, donc très patriote, très attaché à la règle, à la loi, etc. Et en même temps, aux prises directes avec des consignes non efficaces, des consignes qui même peuvent poussées à se demander pourquoi elles ont été données, puisqu'elles ont même facilité l'attentat d'une certaine façon. Donc c'est lui qui, quelque part, met le plus vite en doute la version officielle, la fameuse version officielle. Sa sœur, elle travaille donc dans l'assurance du risque financier. Donc elle est au sommet de la pyramide des chiffres, quelque part. Elle domine le monde mathématique, qui est le monde du commerce.
Et elle a tout un discours sur la probabilité.
Elle travaille sur les aléas, les probabilités, etc. Donc elle est là où elle aurait dû être capable de modéliser la possibilité de cet attentat. Sauf que cet attentat, en fait, c'est bien joli, les modélisations, mais un attentat reste un attentat. Et en même temps, elle vit à New York, elle est dans un milieu très intellectuel, etc. Donc elle est aussi dans un monde beaucoup plus émancipé dans ses valeurs ou ses points de vue politiques du patriotisme et du récit national ou du mythe national, quoi.
Seulement, elle va se prendre une tour sur la tête.
Seulement, elle se prend les tours sur la tête, et tout de suite, c'est moins facile de se positionner. Et donc ce qui m'importait, c'était vraiment que ces deux personnages répondent au troisième, qui est Mohamed Atta, qui peut-être est aussi fictif qu'eux, hein, parce que, bon, quelque part, c'est pas
vous
parce
reconstituer
que...
sa vie à partir
oui,
des rapports...
à partir des quelques traces biographiques qui sont dans les rapports de la CIA, mais ces rapports ont été attaqués depuis et complétés sur certains aspects, mais pas sur tous, par la CIA elle-même. Donc, il y a des choses là-dedans qui sont sujettes à caution, j'en sais rien, mais en tout cas qui sont matière à fiction. Et ça m'intéressait,
le fait,
en fait.
Par exemple, à Hambourg, Mohamed Atta... étudiant en architecture, Mohamed Atta au Caire, qui est fasciné par les pyramides.
Qui naît à Gizeh et qui grandit au pied des pyramides. Ouais.
Oui, et il y a d'ailleurs dans toute votre œuvre romanesque, Fanny Talandier, la question de l'architecture, on y reviendra. Hein, le passé, écrivez-vous, c'est pierre sur pierre. Ouais. Et au fond, au Caire, comme dans les lotissements que vous allez imaginer, ce sont des ruines. Et ouais. Être face au temps, c'est aussi être dans les décombres des utopies.
dans les décombres des utopies, dans les décombres du sens qu'on met dans le plan et dans le et dans les élévations des villes aussi, et qu'ensuite, une fois que les empires se sont écroulés, parce que tout empire finit par s'écrouler, eh bien, il reste les ruines, et le sens est complètement à reconstruire. Même si les murs sont debout, il nous parle plus, et ce rapport au vestige me paraît fascinant. Et puis bon, après, j'ai eu, comme toute gamine, le rêve de devenir archéologue, et je pense qu'il y a quelque chose qui continue d'agir là-dedans, quoi.
Et oui, vous êtes une archéologue de la surmodernité, on pourrait dire, c'est-à-dire cette manière qu'ont, je dirais, les images de s'imposer à nous avec leur force de sidération, on nous dit. C'est tout à fait inquiétant aussi, parce que je pense au livre de Clément Chéroux, qui a travaillé dans un livre qui s'appelle Diplopie sur les images du 11 septembre. C'est un événement qui est fait pour être vu, c'est un événement qui est pensé par les terroristes pour la télévision, et en même temps, au moment où on le voit, on croit l'avoir déjà vu. C'est-à-dire qu'il est efficace parce que il va nous chercher dans notre culture visuelle hollywoodienne, et en même temps, il est soumis à la répétition, c'est-à-dire qu'on va voir en boucle depuis le 11 septembre 2001, les avions ne cessent de percuter les deux tours.
Oui, ouais, ils rentrent toujours dans le cadre et ils finissent toujours au milieu de l'image de la même façon, c'est vrai. Mais après, ce qui est intéressant avec ces... Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le terme de sidération. Je pense que la sidération est... c'est pas que je suis pas d'accord. Je pense que c'est très bien d'étudier ça, mais c'est pas tant ça ce que je dirais. Parce que la sidération, ça nous renvoie aux comètes, quoi. C'est l'espace sidéral, c'est un espèce de truc où on est annulé. Ce qui me paraît plus frappant avec ces images, quelque part, c'est que, comme vous dites, on les reconnaît avant même de les connaître, et en même temps, elles peuvent pas faire sens. Elles ont une grammaire qui est celle de la modernité. Donc il y a des gratte-ciels, il y a le ciel, il y a les avions. Donc c'est vraiment parfait, quoi. C'est la ville comme espace nodal parmi un réseau mondial. C'est le déplacement instantané. C'est toute la grammaire y est. Mais il n'y a aucune raison logique pour qu'un avion s'écrase dans une tour. En fait, c'est pas entendable concevable. Et c'est pas concevable exactement par cette même grammaire, en fait. Et en ça, oui, ils ont produit les meilleures images du cinéma du XXe siècle, quelque part. Ils ont mis le point final au film catastrophe, je pense.
Une des forces, une des beautés aussi de votre livre, c'est qu'il convoque toute une littérature américaine. On pense à Don DeLillo, sans doute. On pense à Philip Roth. Peut-être aussi John Dos Passos, je trouve, manière justement d'articuler les contemporanéités ou de les disjoindre, c'est-à-dire de faire entendre un chassé-croisé d'opinions qui n'adhèrent plus à elles-mêmes, de doutes. C'est une installation, en fait, Fanny Talandier, du point de vue littéraire.
Du point de vue narratif, oui. En fait, j'ai mis longtemps à trouver cette forme qui est effectivement un entrelacement. Le cadre, c'est que ça commence à 8h du matin avec le premier crash, et puis ça finit à 8h du soir avec le discours de George W. Bush à la télévision sur la journée du 11 septembre 2001. Mais là-dedans, il fallait que je fasse rentrer tout le passé. Et aussi, d'une certaine façon, un peu l'avenir, puisque j'écrivais avec 15 ans de retard sur les faits. Donc, il fallait que je trouve une façon de coupler tout ça. Et il fallait aussi que je fasse en sorte que ces personnages qui ne se parlent pas pendant tout le livre se répondent. Même s'ils sont jamais en communication, ils sont jamais en contact. Ils se croisent pas, ils se voient pas. Et donc, du coup, au fur et à mesure,
il y a des appels en absence, il y a le père qui est en train de mourir.
Voilà, il y a qui à lui seul peut-être incarne aussi un petit peu ce mythe américain de la croissance, quoi, c'est un homme qui a travaillé chez Ford toute sa vie, qui s'est fait d'ailleurs mettre dehors quand Ford a délocalisé à la fin des années 70 et au début des années 80. Il a élevé ses enfants à Détroit, qui est aussi une ville en ruine, mais pas pour les mêmes raisons que Manhattan. Donc du coup, ça permettait. Mon objectif, c'était vraiment de mettre je mettais la matière ensemble, et puis je cherchais les échos. Et une fois que je trouvais les échos, je pouvais construire des chapitres avec ces échos-là. C'est pas les fils narratifs individuels qui m'ont guidé. C'est vraiment ce que je pouvais trouver de commun entre les différentes histoires et les les idées que ça faisait émerger parmi les personnages.
Et puis il y en a d'autres, des échos, Fanny Taillandier, plus inattendus, plus douloureux, c'est-à-dire que lorsqu'on le lit par les écrans du Monde, on le lit aujourd'hui, et on sait ou on se doute que vous l'avez écrit pendant que votre histoire était percutée par notre histoire, d'autres histoires, et en particulier d'autres attentats, et ceux de l'année 2015.
Ouais, absolument. Moi, j'étais à Paris, j'étais à ce moment-là prof à Drancy, et un des kamikazes du Bataclan était un ancien élève du lycée, donc qui était connu par mes propres élèves, etc. Enfin, ça a été vraiment un moment où j'ai... Bon, comme la plupart des Parisiens et des Français, en fait, je l'ai ressenti, je l'ai pris de plein fouet, cet attentat-là. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre des choses. Ça m'a permis notamment de comprendre que, quoi qu'il advienne, je ne pouvais pas mettre sur le même plan, comme j'avais un petit peu l'ambition de le faire, un terroriste et une victime du terrorisme.
Oui.
Que, en fait, il y a des choses qui sont différentes et qu'il y a des choses qu'il faut ressentir pour les savoir. Et que je pouvais pas arriver avec un livre sur New York en disant « ça s'est passé comme ça chez vous », maintenant que moi-même j'avais vu ce que ça pouvait faire de ressentir cette peur-là dans la ville, quoi.
Parce que là, on était face au présent, mais pas... par les écrans du Monde.
Non, oui, là, c'était très direct et bien trop direct. Et en même temps, ça m'a permis aussi de comprendre que ces gens qui ont commis des attentats en 2015, c'était vraiment des cavaliers noirs aux petits pieds, quoi. Parce que c'est quand même pas du tout la même échelle non plus, et on peut pas mettre sur le même plan une tuerie sanglante et atroce dans une salle de concert parisienne, et quelque chose qui est capable de révolutionner l'histoire du monde, parce que je pense quand même qu'il s'agit...
Que c'est de ça dont il s'agit.
Je crois que le 11 septembre, quand on voit que ça a été une liesse, notamment par exemple le Pakistan, qui était sous le feu de la mitraille américaine à ce moment-là, que c'est encore célébré dans certaines parties du monde comme une date de victoire, que Ben Laden n'a pas été enterré et que son corps a été jeté dans la mer pour éviter qu'on se recueille sur sa tombe, eh ben on se rend compte que ça a eu une importance immense et que les attentats de Paris ou de Nice, dans notre histoire très locale, ils sont peut-être importants, mais c'est pas du tout les mêmes enjeux, quoi.
Le soleil envahit le ciel de l'Amérique. Le ciel est d'une pureté incroyable. C'est presque le début du roman et c'est l'aube, en fait, de notre monde.
Ouais, c'est peut-être le dernier jour du XXe siècle, ou alors c'est le premier du XXIe, mais je pense que ça peut servir de date.
On va écouter la musique que vous avez amenée, Fanny Taillandier.
Oui.
On va l'écouter, on
D'accord,
en parle
Patrick
après.
Boucheron.
The plan to take command of the whole family, though underhanded, to be the man that was planned on my road dogs. Official mob figures love to act up. The first to bomb when we rob niggas, I could be lost in my own mind. To be the boss, only thoughts gripping chrome knives. Niggas get tossed up, war scars, battlefield memories. Swore, saw the devil in my empty glass of Hennessy. Talking to a nigga on the tight links, screaming fuck the police as I ride through the night streets. Little child running wild, towards danger. What's the cause? Don't be alarmed after all strangers. Maybe I'm a madman, a pistol grabbing nigga, unleash the sandman. Promise of merciless retaliation, nothing is colder. Close your eyes, hear the ballad of a dead soldier. A bitch, switch now to tricks, pros tossed up and never to be heard of. A single witness screaming bloody murder, murder, blast. Tell me, homie, what you see now? A blind man in a dead body. I'm ready to leave town and get my cash though. Hook up with cash though. Homie had to blast on the task force. Stupid cops tried to play us out. Never that. They took my money and my stash. Time to get them back. I put my secret arrival. 2 Glock 45s. Time for survival. Death to my rivals. Tell me what you want, Lord. Nobody left after the death of a drug lord.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
Matière à penser toujours avec vous, Fanny Taillandier, qu'avons-nous entendu ?
Eh bien, nous avons entendu une chanson posthume de Tupac Shakur qui est sortie juste avant les attentats du 11 septembre aux États-Unis et qui s'appelle Ballad of a Dead Soldier avec l'accent et qui m'a paru intéressante parce que bon déjà en fait cette mythologie du kamikaze elle est dans cette chanson là qui est écrite depuis la Californie des années 90 américaines. C'est une mythologie du chaos puisque la chanson raconte aussi cette espèce de personnage du soldat mort qui de toute façon peut tirer sur tout le monde et n'en a plus rien à faire. Et puis parce que à ce moment-là, New York c'était pas seulement le centre du commerce du monde, c'était aussi une place où se créer de la musique et notamment hip-hop toutes les deux minutes et que du coup je trouvais ça bien de décaler un petit peu le regard et de voir ce qu'il y avait de vivant là-dedans.
Ce qui est vivant aussi dans la littérature, c'est qu'elle peut se donner à entendre justement musicalement, avec vos textes, et déjà avec le premier, Les Confessions d'un monstre, vous les avez mis en voix, vous les donnez à entendre différemment. Quelle est votre pratique avec tout ça?
Ouais, bah en fait c'est sous forme de concert, je travaille avec... en général, un batteur et un bassiste, et puis après d'autres effets de clavier ou de électronique. Et l'idée, c'est justement de sortir de la lecture. Donc c'est très peu linéaire. Il y a très peu de moments où je lis, mais c'est plutôt des phrases ou des même parfois des mots qui servent de base au morceau, quoi. Et ça donne complètement autre chose à entendre. Et ça je trouve ça assez amusant. Et puis, alors c'est agréable aussi pour une autre raison, c'est que l'écriture est quand même un travail très solitaire, et que se réapproprier l'objet avec d'autres qui en tirent d'autres choses et qui le convertissent notamment en musique. Moi, je suis pas musicienne, donc je suis assez fascinée par ce que les gens arrivent à faire là-dedans. C'est aussi une belle ça concrétise autre chose, quoi, du même
projet.
Puis
c'est une manière de s'adresser aussi à un autre public. Vous avez fait des ateliers d'écriture, non? Vous avez travaillé avec des étudiants?
Ouais, j'ai fait aussi beaucoup d'ateliers d'écriture. Bon, après, j'ai été prof pendant une dizaine d'années, ouais. donc dans le secondaire avec des élèves qui avaient autour de 15 ans. Et c'est vrai que ça, je suis pas venue à ce métier par vocation spécifique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, la passion de la littérature, je l'avais déjà, et que dans ce métier de prof, on se rend compte qu'il y a mille façons de la transmettre, et que parfois, les caractères noirs sur une page blanche, c'est pas du tout la bonne,
non.
Mais que il y en a plein d'autres, et que la littérature est active même en dehors de son côté imprimé, auquel on peut être habitué parce que l'imprimerie existe depuis quelques siècles maintenant, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste. Donc
les écrivains, ils doivent aller au contact, quoi. Ils doivent
chacun est libre,
mais vous avez envie de faire ça.
Bah, moi, je trouve que la littérature, c'est le règne des mots, et que les mots, c'est pas fait seulement pour être lus dans un texte. Mais après, lire un texte, c'est aussi un immense plaisir pour moi que je ne renie pas du tout. Donc, je pense que c'est complémentaire, mais que ça peut se passer partout, la littérature. Et notamment, moi, je suis une grande adepte de hip-hop et de rap depuis très longtemps, et pour moi, c'est de l'ordre de la littérature ce qui se joue dedans.
Les Confessions du Monstre, c'est paru en 2013 chez Flammarion. C'était déjà assez trash, enfin c'était direct, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est de la littérature qui est adressée, qui file droit vers son objectif.
Alors je me souviens plus bien de
ce roman,
de ce que j'ai fait dans ce roman-là, parce que bon, ça commence à faire un moment, mais je crois que j'étais mue quand même par une non mais j'en ai écrit d'autres depuis à ma décharge, mais j'avais une
par
certaine
une colère.
Notamment j'avais une certaine colère envers le milieu de la littérature,
ou en tout cas
l'industrie de la littérature, qui en fait se payait de mots, c'est-à-dire ne travaillait pas le style, quoi. Et je voyais jamais une critique qui parlait du style. Je voyais qu'on vendait de la littérature comme des pots de yaourt, et que l'efficacité narrative était réduite au strict minimum. Et j'avais envie de compliquer ça. Et c'est pour ça que j'ai pris cette figure du tueur en série qui abonde dans les polars, qui peuvent être très bons, mais qui, enfin, malheureusement, ne le sont pas tout le temps, mais sont très vendus et font tourner l'industrie. Et j'avais envie de retourner un peu ça et d'aller voir ce qu'on pouvait faire de cette figure en dehors des codes industriels, on va dire, du genre polar, quoi.
Oui.
C'est parti de là.
C'est parti de là, et c'est effectivement... Oui, ce qu'on pourrait appeler une littérature directe, alors que votre deuxième livre, qui s'appelle « Les États et Empires du lotissement grand siècle, archéologie d'une utopie », qui est paru au PUF en 2016, et donc là qui joue j'irais plutôt à déjouer justement les genres. Est-ce un roman? Est-ce de la critique? Il est plus tortueux, je ne dirais pas, mais justement plus...
Sinueux, peut-être.
Oui, plus rusé dans son, dans sa manière, un peu à la manière des fables au fond du XVIIe siècle ou des contes. Il cherche une voie plus, plus détournée pour dire ce que vous avez envie de dire.
Oui, bah c'était un tout autre projet parce que là, d'ailleurs, c'était, ça a pas commencé comme un projet, mais comme un jeu pour moi-même. C'est-à-dire que je me suis amusé à utiliser les auteurs du XVIIe siècle, du grand siècle, pour écrire sur des lotissements pavillonnaires. Et donc je prenais Hobbes et puis je me disais bon, si on prend le Léviathan, ça donne
d'accord,
quoi.
D'accord, c'est
si
comme un jeu de société. Au
voilà,
départ.
Et je m'amusais vraiment au ou départ. C'est parti d'une plaisanterie que je me faisais à moi-même, quoi, en quelque sorte. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à en dire, en tout cas qui m'interrogeaient et que j'avais envie de creuser. Donc la matière s'est amassée. Et puis après, pour compliquer encore un peu les choses, j'ai emprunté cette fois au code de la science-fiction pour approcher l'objet. Mais en fait, finalement, c'était un petit peu la même démarche que par les écrans du monde plus récemment. Ce que je voulais pas, c'est qu'on puisse lire ce livre en se disant elle est pour les lotissements ou elle est contre les lotissements, parce qu'il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et que moi je voulais pas. Encore une fois, je fais de la littérature pour poser des questions. Donc les codes et les outils littéraires servent à ça aussi, à faire cette Verfremdung brechtienne, en fait, oui. où on sait plus ce qu'on voit et on sait plus ce qu'on regarde, et donc on peut le regarder avec un œil neuf.
Pour donner un exemple à nos auditeurs, eh bien, votre prose est d'une certaine manière arrêtée par des tracts, par exemple, Fanny Taillandier, notamment un Système Vauban, solution de protection et de surveillance pour les royaumes et collectivités, devis gratuit sur simple demande. Vauban, un État ne se peut soutenir si les sujets ne le soutiennent.
Ce qui est une authentique citation de Vauban.
Et donc, il s'agissait de parler justement de cette utopie. Comme si c'était une utopie grand siècle, qui est l'utopie de Levitt, c'est-à-dire de ce périurbain pour riches, ou en tout cas pour gens aisés, c'est ça?
Alors Levitt, oui, il avait un projet qui était homogène socialement dans son habitat, enfin dans ses habitations, donc ce qu'il a appelé le nouveau village, qu'il a fait à très grande échelle à Levittown sur Long Island, sur la côte est américaine. Mais en France, ça a été pour les plutôt très riches, pour les cadres, on va dire.
Il y a quoi? Il y a Lézigny, c'est ça?
Il y a Lézigny, il y a le Ménil-Saint-Denis, et puis il y en a un troisième, Mency, qui est le plus grand,
Ouvre en mai 68, en fait.
Et le premier ouvre en mai 68. Et en fait, il espère attirer les cadres d'Air France. Donc il se place stratégiquement assez près des aéroports sur les nouvelles voies de communication qui sont en train d'être construites dans le pays. Et donc pendant que les chevelus de la Sorbonne et les ouvriers de Renault font la révolution, y a aussi tous ces gens qui sont les gagnants en fait des Trente Glorieuses, qui vont s'installer dans ces maisons à l'américaine avec un garage de plein pied, avec un jardin ouvert et dans une parfaite homogénéité. Et sur rien. Et en fait, qui a fait ça dans l'histoire de France? Louis XIV, quand il a fait Versailles, quelque part, il n'était pas loin du parc paysager de Levitt et de la sortie de la ville pour aller ailleurs. Donc je me suis dit, ça marche.
D'où l'idée de pasticher les auteurs du grand siècle pour effectivement faire une description de ce lotissement. Mais en même temps, là, il y a une autre référence littéraire, c'est de la littérature, on va dire, post-apocalyptique, parce que on commence dans les décombres, c'est-à-dire que c'est là encore l'archéologie de la ruine de cette utopie du capitalisme.
Oui, parce que le périurbain fait débat en France, avec des intentions plus ou moins néfastes ou plus ou moins, au contraire, angéliques. Moi, je voulais pas rentrer là-dedans, et je me suis dit la meilleure façon de ne pas rentrer là-dedans, c'est de prendre le point le plus opposé possible à ce modèle du pavillon unifamilial qu'on achète à crédit et qu'on rembourse pendant toute sa vie, et puis ensuite qu'on lègue à ses enfants qui en général s'empressent de le revendre parce qu'il a perdu toute sa valeur, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et quel est le point le plus opposé à ce modèle-là? C'est le nomadisme. Mmh. C'est-à-dire que quand on est nomade, on risque pas d'avoir l'idée d'aller s'installer dans un lotissement pavillonnaire. Donc, j'ai créé ces nomades pour pouvoir parler du lotissement pavillonnaire en étant à l'abri de la prise de parti. Eux, ils ne peuvent avoir de point de vue que celui des nomades, c'est-à-dire d'un autre d'un autre système de valeurs. Et ces nomades, bon, bah, tant qu'à faire pour qu'ils soient complètement radicalement étrangers, autant qu'ils viennent carrément du futur, comme ça, en plus, ils sont pas attachés à nos débats politiques actuels. Et donc, dans la fiction que j'ai inventée, ils en ont même plus trace. Il y a eu le grand fracas entre eux et nous. Dans notre avenir, il y a eu ce qu'ils appellent le grand fracas. Et ils se souviennent absolument de rien, en fait, ou de presque rien de ce qui a fait notre temps. Par contre, ils connaissent très bien le XVIIe siècle. Donc, ils ont une espèce de pierre de Rosette où ils ont les textes du XVIIe siècle et les pavillons, et ils essayent de faire coller les deux.
Ben, vous voyez que vous êtes archéologue, en fait.
Ah,
vous avez réussi à devenir ce que vous vouliez être, petite fille.
Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est homologué comme démarche archéologique, mais...
Bah, en tout cas, c'est très drôle et c'est très différent de par les écrans du monde. Vous allez inventer, et d'ailleurs de Les Confessions du Monstre, vous allez inventer un style différent pour chaque projet romanesque, Fanny Taillandier.
Franchement, j'espère, ouais.
Ouais,
j'espère.
C'est ça l'idée, parce que là, ils ne se ressemblent pas, ces trois livres.
Bah, je sais pas, moi, je pense souvent aux gens qui sculptent et qui sont obligés de... Ils veulent faire une figure, mais ils ont un bloc de marbre qui est extrêmement dur et qui a ses propres veines, en fait. Et donc, il faut faire avec ce bloc, et si la figure et le bloc ne s'entendent pas, c'est qu'il faut changer soit de bloc, soit de figure. Et en tout cas, c'est la synthèse des deux qui réussit. Moi, c'est ça qui m'intéresse, j'ai pas envie d'avoir une recette... J'ai envie que l'écriture se mette au service de quelque chose que je veux raconter. Après, c'est difficile.
Alors, d'accord, vous êtes flaubertienne, d'accord, il n'y a pas de, c'est pas des romans à thèse. Et en même temps, vous avez cette volonté, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vous dis, j'ai peut-être tort de vous mettre, bah, justement, face au présent. C'est ça qui nous réunit, face au temps, face aux ruines d'avenir. Pourrait-on dire avec Michel Butor, c'est à la fois les décombres de nos rêves politiques, mais le fait qu'elles ont peut-être de l'avenir, justement, ces ruines. Et puis il y a quand même quelque chose quand on lit aujourd'hui les États et empires du lotissement grand siècle, c'est que ça parle d'une France de l'étalement urbain, donc des ronds-points déjà.
Bah ouais, j'étais assez contente d'ailleurs que mon livre ait fait florès au point que des tas de gens enfilent des chasubles et se
c'est ça, hein,
sortent de leur pavillon.
Vous l'avez pris, comme ça, comme un hommage.
Bah ouais, 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 non, je les remercie d'ailleurs à ce micro. Non, mais blague à part, cette France des ronds-points, je la connais mal puisque moi j'habite en banlieue parisienne proche, donc il y a très peu de ronds-points. Hein, la ville est trop dense à cet endroit-là. Je la connais par contre pour y visiter souvent ma famille, etc. Moi, ce que je trouve frappant avec les ronds-points, c'est que, enfin moi, les gilets jaunes, tout ce que j'ai pu en étudier, finalement, c'est ça, c'est les ronds-points. Et ce que j'ai trouvé frappant avec les ronds-points, c'est que quand on regarde leur histoire, en fait, c'était la marque du pouvoir royal dans les forêts.
L'histoire architecturale, hein, vous voulez bien
voilà,
dire.
L'histoire de la forme architecturale.
La forme même du rond-point.
Et les premiers ronds-points en France, les premiers ronds-points réels, ce sont les ronds-points forestiers que font percer, donc les avenues forestières que font percer François Ier et les suivants, dans ce qui est encore aujourd'hui le domaine français des forêts, quoi. Et donc ces ronds-points sont intimement liés à la pratique aristocratique de la chasse à cour notamment. Et à une affirmation par l'aménagement de la maîtrise totale et absolue, donc de l'absolutisme, dans l'espace qui est l'espace sauvage, parce que forêt, ça veut dire sauvage.
Oui.
Et donc que ces ronds-points aient envahi la France comme ça, quelque part, ça donne un message assez intéressant, je trouve, c'est-à-dire... Où sont les sauvages, en fait, si on met des ronds-points partout? C'est peut-être nous, en fait. Et peut-être que finalement, la place du milieu du rond-point qui était réservée à celui qui attendait de voir arriver le cerf rabattu par les veneurs, bah peut-être que quand on prend cette place-là, en fait, symboliquement, on a déjà gagné quelque chose. En tout cas, c'est une forme intéressante, les ronds-points.
C'était après, l'occupation, non pas des places, mais des ronds-points. Et d'une certaine manière, je ne dis pas du tout que ce roman est prophétique. Hein, mais on y lit quelque chose de cette France mal aimée, au fond, des lotissements et du rêve politique qu'il portait. Et au fond, il y a là, oui, une sorte d'archéologie de la modernité. C'est ça autour duquel, serais-je tenté de dire, puisqu'on parle des ronds-points, autour duquel vous tournez, Fanny Taillandier. C'est-à-dire essayer de rendre compte de la complexité du réel.
Oui, parce que le cas de l'allotissement et du pavillon individuel plus globalement, il est assez intéressant pour ça, parce que les détracteurs de l'étalement urbain et de ce genre d'habitat disent toujours la même chose, que c'est pas écologique, que ça témoigne d'un repli sur soi individualiste. Déjà Guy Debord, dans la Société du spectacle, il règle le compte de tout cet habitat-là en deux fragments, c'est définitif. D'un autre côté, les gens désirent ça, et les gens désirent ça notamment parce qu'en France, il y a eu des opérations de remembrement et de modifications extrêmement radicales et violentes de l'agriculture qui a poussé des gens à l'exode, et que une fois qu'on a été déraciné, finalement, effectivement, avoir un carré de terre avec sa maison dessus et se dire « Ok, maintenant c'est chez moi, je bouge plus », c'est un rêve qui s'entend. En même temps, pour ce rêve-là, il alimente le marché de la construction, il alimente aussi le marché des crédits bancaires, donc il est très très encouragé par l'État, qui ensuite derrière va dire « Oui, non mais c'est bien gentil, mais vous utilisez un peu trop de gasoil ». Donc qui a raison et qui a tort ? Personne n'a raison et personne n'a tort. C'est un champ de force, quoi.
C'est un champ de force, et c'est ce champ de force que en écrivain, vous arrivez à rendre sensible. Et au fond, votre littérature, Fanny Taillandier, c'est une littérature qui est radicale, mais pas péremptoire. Voilà.
Écoutez, tant mieux, Patrick. Bon, je vous remercie pour ce compliment.
Et au fond, qu'est-ce que vous pensez ? Ce sera ma dernière question. Comment vous vivez aujourd'hui la capacité qu'ont les gens d'adhérer avec ardeur et parfois agressivité à leurs propres convictions ? J'ai l'impression que toute votre littérature complique et déjoue cette roi d'assurance, un peu mâle, viril d'ailleurs, et en tout cas, oui, violente potentiellement, d'être persuadé d'avoir raison. Et au fond, dans vos livres, il y a cette mise en demeure par la littérature de ce que c'est qu'être face au présent, c'est-à-dire être quand même face à nos propres contradictions, non ?
Ah bah oui, ça c'est sûr que... Oui, ce que vous dites est tout à fait juste, en fait. Je j'arrive même pas à comprendre comment les gens font pour être aussi sûrs d'eux, moi, parce que il me semble que c'est bien plus compliqué que ça. Le présent et la vie, enfin, même l'être humain en soi est un tissu de contradictions, de confrontations intérieures, et c'est un sac de nœuds, quoi. Donc à partir de là, comment affirmer ? Alors après, ça n'empêche pas d'avoir des valeurs, et ça n'empêche pas que j'ai des convictions, mais
nous pouvons dire, face à un événement comme Lucie et William, tout était là pour le lire, mais nous ne l'avons pas lu.
Oui, je pense qu'on est assez souvent condamnés à ça. On est tous un peu Oedipe, qui sommes aveuglés quand on a des yeux, et puis une fois qu'on a vu, on ne voit plus. Donc il y a quelque chose comme ça dans la condition humaine où c'est toujours illisible.
Ce qui ne veut pas dire qu'on est condamné à l'impuissance.
Non, pas du tout. Au contraire, on est condamné à vivre. Donc ça, c'est sûr, et c'est compliqué. Mais
merci, voilà. Merci, Fanny Taillandier.
Merci beaucoup à vous, Patrick Boucheron.
Matière à penser, Fanny Taillandier, Pierrick Charles, Catherine Donné, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Dès lundi, même heure, c'est à Dominique Rousset que je cède mon siège pour toute la semaine. Elle nous parlera des animaux. Bonsoir.